dit, maintenant qu'on a du temps, on pourrait peut-être partir une semaine à la mer, en Bretagne.
Attends, est-ce que tu es vraiment sûr que là-bas, on puisse capter la JT du local?
Et c'est sur l'autre radio. Aujourd'hui, on va se projeter un peu chez vous. Oui, vous qui m'écoutez, je vous alpague comme ça dès les premières phrases. Vous êtes chez vous, le café fume, le chat s'étire sur le canapé. Et là, attention, dans votre salon débarque une boule de poils. Ce n'est pas Médor qui vous ramène un bâton plein de bave ou qui enterre votre télécommande dans le jardin. Non, c'est un chien qui vous regarde droit dans les yeux avec un message clair. T'inquiète, je gère. Oui, c'est bien l'agité du local que vous écoutez sur l'autre radio. Et je vais bien, je ne suis pas en panne d'inspiration pour commencer cette émission, non, c'est pas parce qu'aujourd'hui, nous allons discuter avec l'association Andy Chien à Alençon. On va parler de ces compagnons extraordinaires qui savent tout faire ou presque. Ouvrir les portes, ramasser des objets, réchauffer des cœurs et même nous réconcilier avec l'idée qu'un monde plus solidaire, ça peut exister. Et pour nous raconter ça, j'ai invité Marie, puisqu'elle connaît tout, les chiens, les humains, les familles d'accueil. Et alors, avant qu'elle nous éclaire justement sur ce qu'il faut pour devenir famille d'accueil, puisque l'association est actuellement justement en recherche sur Laval, laissez-moi vous parler un peu du programme du jour. Aujourd'hui, il y aura le dernier micro-trottoir de l'année 2024. J'étais à votre rencontre avec une thématique actuelle mais légère. On parle de Noël avec vous dans les rues de Laval. Ensuite, c'est notre reportage pensée locale de la semaine. Aujourd'hui, on se rend à Nantes pour découvrir un lieu qui s'est réinventé. Il s'agit du pigeonnier des Dervalières. Il date du 17e siècle et a rouvert ses portes en mai dernier. Et donc, on en parle en seconde partie d'émission. Et puis, on termine au téléphone avec Maître Mignard qui nous donne le sourire pour cette avant-dernière émission de 2024. L'agité du local le fête Noël la semaine prochaine. Bienvenue à vous qui nous écoutez. Je suis Margot et votre émission quotidienne commence maintenant. L'agité du local sur l'autre radio. Marie Wathieu, bonjour. Vous êtes chargée de communication pour le centre de formation Andy Chien à Alençon et intervenante en médiation animale. Merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir accepté mon invitation.
Merci à vous.
Alors si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est parce que l'association Andy Chien recherche des familles d'accueil sur Laval. Peut-être déjà en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'objectif principal de votre association?
Oui, bien sûr. Donc l'association Andy Chien éduque et remet gratuitement des chiens d'assistance à des personnes en situation de handicap ou de vulnérabilité. Donc elle existe depuis maintenant un peu plus de 30 ans. Elle est née à Alençon. Il y a toujours un centre de formation aujourd'hui et depuis 3 autres ont vu le jour, un en Bretagne, un à côté de Blois et un à Lyon. Et en un peu plus de 30 ans, c'est 3500 chiens d'assistance qui ont été remis sur tout le territoire français.
Oui, donc effectivement, le chiffre est parlant. Quelles sont peut-être les différentes catégories de chiens formés par Andy Chien et quel type de besoins couvre-t-il concrètement?
Oui, alors le profil le plus connu, c'est le chien d'assistance que l'on remet auprès d'un enfant ou d'un adulte à mobilité réduite. L'objectif, c'est de créer du lien social et surtout de pouvoir avoir une aide dans le quotidien, une aide logistique qui permet une autonomie pour la personne, comme ramasser un objet, ouvrir une porte, aider à enlever un manteau. Ensuite, nous avons le chien d'assistance dit d'éveil qui est remis à des enfants qui sont soit atteints d'autisme, de trisomie ou polyhandicapés. Ce chien, en fait, avec l'aide des parents, avec l'aide des professionnels qui encadrent l'enfant, va pouvoir être initiateur d'activité et l'objectif, c'est de pouvoir faire progresser l'enfant de façon positive dans son handicap. La plus belle des victoires, c'est de pouvoir, par exemple, avoir des autistes non-verbaux qui, quelques mois après l'obtention de leur chien, vont verbaliser un premier mot et souvent le nom de leur chien. Nous avons également des chiens d'assistance dits d'accompagnement social. Donc ça, ce sont des chiens que l'on remet auprès de professionnels du secteur médical ou médico-social. Et ils vont exercer dans des établissements pour personnes dépendantes, donc des cliniques, des hôpitaux, des maisons de retraite, des IME, des IEM, etc., etc. Nous avons également des chiens d'assistance à la réussite scolaire. Donc, ce sont des chiens que l'on remet auprès d'établissements qui ont plutôt d'ailleurs des classes dites inclusives de type dispositif ULIS. Et l'objectif de ce chien, eh bien, c'est de permettre à l'équipe pédagogique d'enseigner différemment. C'est aussi une aide pour lutter contre la phobie scolaire, le décrochage scolaire, par exemple. Nous avons également le chien d'assistance judiciaire. Donc ça, ce sont des chiens qui vont assister les victimes dans le cadre d'instruction judiciaire. Ils sont remis auprès de services de police, services de gendarmerie ou associations de victimes Et ça rend l'instruction judiciaire eh bien, différente. On est beaucoup plus en confiance et ça permet de libérer la parole lors des auditions, par exemple. Et enfin, nous remettons des chiens d'assistance pour personnes épileptiques, donc des chiens qui sont spécifiquement formés pour alerter la personne de l'arrivée d'une crise. Comme ça, elle peut se mettre en sécurité. Et à l'issue de la crise, le chien est présent pour pouvoir eh bien, rassurer la personne quand elle revient à elle. Donc, pas mal de profils de remise.
Oui, effectivement, c'est assez impressionnant. Est-ce qu'il y a des races spécifiques, des types de chiens plus adaptés à telle ou telle situation ?
Oui, alors on travaille essentiellement avec des labradors et des golden retrievers. Alors, il pourrait y avoir des dizaines de raisons, mais les trois principales, c'est que déjà, ce sont des chiens qui ont une bonne bouille. Ils ont un bon potentiel sympathie. Tout à l'heure, je vous ai parlé de lien social. L'objectif, c'est pas de changer de trottoir quand on les croise dans la rue, mais plutôt de susciter une interaction avec la personne qui vous accompagne. La deuxième raison, c'est qu'en termes de taille, c'est tout à fait satisfaisant pour nos besoins. À titre d'exemple, nos chiens éteignent et allument la lumière en mettant leurs pattes de part et d'autre du bouton poussoir, et ils vont actionner le bouton avec leur truche. Avec un chihuahua, on serait un petit peu trop bas, et avec un dogue allemand, on serait carrément trop haut. Et la troisième raison, c'est qu'à l'origine, ce sont des chiens de chasse, ce sont des rapporteurs de gibier d'eau, donc ils ont une très bonne préhension de leur proie, ils la ramènent sans la détériorer aux chasseurs, et nous, c'est une qualité naturelle qu'on va entretenir pour le rapport d'objets. C'est plutôt sympa de récupérer sa paire de lunettes ou son dernier téléphone à la mode en bon état.
C'est vrai, vu comme ça. Et alors concrètement, comment se passe la formation d'un chien handichien ? Quelles sont peut-être les étapes clés pour qu'un chiot devienne un chien d'assistance ?
Oui, alors donc la formation, elle dure 2 ans. Le chiot est sélectionné en élevage à l'âge de 7 semaines. Les élevages sont présélectionnés par une référente au niveau national. On va s'assurer d'un certain nombre d'examens de santé sur les géniteurs, mais aussi s'assurer de comportements adaptés. Et donc, on va aller les tester sur une portée. Tous ne seront pas heureux élus. Et ensuite, à l'âge de 2 mois, eh bien, ils arrivent dans nos familles d'accueil qui sont bénévoles, qui vont accueillir ce chiot puis ce chien comme si c'était le leur, leur octroyer beaucoup de temps, beaucoup d'amour. Elles vont suivre des cours familles d'accueil qui ont lieu tous les 15 jours. Ça va permettre eh bien, d'inhiber les mauvais comportements, d'encourager les bons et de commencer à leur inculquer les premières commandes. Et à l'issue de cette période en famille d'accueil, qui dure entre 12 et 16 mois, le chien va faire sa rentrée au centre de formation. Et là, il va être pris en charge par un éducateur canin professionnel qui, en fonction de ses qualités et de ses défauts, va être orienté dans un des profils de remise dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, ils sont remis à l'âge de 2 ans après un stage de passation.
Et alors, vous, comme on le disait, vous recherchez actuellement donc des familles d'accueil à Laval. Qu'est-ce que ça implique exactement pour une famille de devenir famille d'accueil pour un chiot handichien ? Peut-être en plus des... Donc, il y a, comme vous l'avez dit, toutes les 2 semaines des formations avec l'association. Mais est-ce qu'il y a des choses particulières en plus à savoir ? Est-ce que peut-être même il y a un profil type de famille que vous recherchez ?
Alors, oui et non. En fait, la condition vraiment qui est importante pour nous, c'est que le chiot, puis le chien grandissant, ne reste pas seul plus de 4 à 5 heures par jour. Donc, ça nécessite soit d'avoir la disponibilité, soit d'avoir un travail qui permet de pouvoir rentrer, par exemple, sur la pause méridienne pour s'occuper de son chien, ou alors de pouvoir emmener son chien sur le lieu de travail. Ça, c'est une des seules conditions parce que, en fait, la diversité des environnements familiaux, la diversité des environnements de vie de nos familles d'accueil sont autant de richesses pour la formation de nos chiens. Donc, finalement, on a des étudiants en cité universitaire, on a des familles monoparentales, on a des couples de personnes en retraite, on a des couples avec des jeunes enfants, des ados, et dans des environnements de vie très différents. On a des gens dans un milieu urbain, dans un milieu rural, des jardins clos, des jardins non clos, des appartements. Et ça, c'est une vraie richesse dans la formation de nos loulous.
Alors aujourd'hui, c'est plutôt connu, les chiens d'assistance accompagnent leur maître dans les différents endroits dans lesquels ils se rendent. Il n'y a pas vraiment de lieu interdit. Est-ce que c'est également le cas pour les chiens d'assistance en formation ?
Et oui, tout à fait, c'est aussi le rôle de nos familles d'accueil, c'est de pouvoir les sociabiliser aux différents environnements dont ils auront à côtoyer finalement quand ils seront remis. Donc c'est emmener son chien avec soi quand on va faire ses courses, quand on prend les transports en commun, quand on va au cinéma. Donc ça, c'est fait évidemment accompagné du délégué. Le délégué, c'est la personne qui accompagne le groupe de familles d'accueil, c'est lui qui va donner les cours et en fonction, eh bien, de la de des apprentissages en fonction de la sensibilité du chien, le délégué pourra dire, eh bien là, c'est bon, vous pouvez aller dans tel ou tel endroit. Donc, en fait, le travail de nos familles d'accueil, il est conséquent. Sans nos familles d'accueil, on ne pourrait pas avoir de chien d'assistance. Donc, on a beaucoup d'admiration pour leur travail. Si en plus, la présence en famille d'accueil, c'est vraiment les éléments constitutifs du chiot. C'est là où, effectivement, il apprend le plus de choses. C'est là où on peut lui montrer beaucoup de choses. Donc, vraiment, leur rôle, il est essentiel dans ces deux années.
On peut peut-être également évoquer ce qu'apporte au quotidien un chien d'assistance que vous formez. Quel est son impact sur une personne en situation de handicap, sur son quotidien en tout cas?
Alors effectivement, l'apport d'un chien d'assistance dans une vie, elle est... Je ne sais même pas si on peut dire qu'elle est mesurable parce qu'en fait, il y a tellement d'effets positifs sur la confiance en soi, sur le lien social, sur parfois les prises médicamenteuses. On a vraiment des gens qui ont un retour à la vie assez incroyable, des gens qui osent faire des choses, des gens qui osent se remettre des objectifs de vie grâce à la présence de ce chien qui est un ami fidèle, qui est le prolongement d'eux-mêmes finalement. C'est tellement impressionnant, vraiment, l'apport qu'ils peuvent avoir dans une vie ou dans un établissement, peu importe la fonction qu'ils exercent. Et c'est vrai que c'est incommensurable, vraiment.
Marie, j'imagine qu'avec ce que l'on se dit là, aujourd'hui, là, maintenant, il y a sans doute des histoires particulièrement émouvantes qui vous viennent en tête, des binômes qui ont pu se former entre un chien et un bénéficiaire.
Eh bien oui, on a par exemple reçu l'année dernière une jeune fille qui est venue essayer des chiens que l'on projetait à ses côtés, une jeune fille de 14 ans, très fermée, vraiment très fermée, donc à mobilité réduite, elle est en fauteuil électrique depuis son plus jeune âge. Et c'est une des premières fois où mes collègues ont dû sortir de la salle parce qu'elle était tellement fermée qu'elle avait vraiment du mal à rentrer dans son essai, dans son test avec les chiens. Et pour nous, on a validé hein, le fait qu'elle puisse avoir un chien. Il n'y avait aucune difficulté là-dessus. Et quand on l'a conviée au stage de passation, mes collègues s'étaient même posé la question de faire un stage plus avec des parties individuelles, tellement il était difficile de rentrer en relation avec elle, en communication. Et finalement, quand elle arrive en stage, c'était la métamorphose. On a vu une jeune fille vraiment lumineuse, communicante, transformée. Vraiment, en fait, la perspective d'avoir un chien d'assistance, la perspective qu'elle puisse renvoyer une autre image d'elle-même accompagnée de son chien, la perspective d'être autonome, ça l'avait métamorphosée et on a découvert une jeune fille terriblement rayonnante, incroyable, impressionnante. Quelle victoire, quel beau cadeau, en fait.
Pour revenir justement à cet appel aux familles d'accueil, aujourd'hui vous faites un appel pour des familles sur Laval. Pourquoi spécifiquement sur Laval? Et puis si un auditeur se sent concerné, peut-être comment est-ce qu'il vous contacte?
Oui, alors en fait, avec l'aide du laboratoire CEVA, on a pu mettre en place il y a 2 ans maintenant une première promotion de chiens d'assistance en éducation sur la région lavalloise. C'est une région où on n'avait pas de délégation, où on avait la possibilité effectivement d'avoir des familles d'accueil parce qu'on en a toujours besoin. On a énormément de dossiers en attente et plus on pourra mettre en éducation des chiens et plus on pourra satisfaire rapidement les demandes. Et puis cette délégation, elle a été pérennisée puisque des familles d'accueil de ce groupe ont décidé de se former pour être elles-mêmes déléguées, donc pour être elles-mêmes en capacité d'encadrer les familles d'accueil. Et aujourd'hui, on est en cours de recrutement. Donc si effectivement il y a des gens que ça intéresse, n'hésitez pas à contacter directement le centre d'Alençon au 02 33 29 51 26. On sera en mesure de répondre à vos questions et puis de pouvoir vous transmettre un formulaire de candidature.
Quel autre moyen peut-être existe-t-il pour soutenir l'association Handy Chien? Donc il y a la possibilité, on l'a dit, de devenir bénévole, mais il y a aussi la possibilité de vous faire des dons. Actuellement, les baisses de subventions de part et d'autre pour l'associatif sont un peu sur toutes les bouches. Alors j'imagine que malheureusement, votre association n'y échappe pas.
Oui, tout à fait. Alors effectivement, le bénévolat, on en a toujours besoin, donc par le biais des familles d'accueil. Ça peut être aussi du bénévolat auprès directement du centre de formation d'Alençon. Ponctuellement, on peut avoir des besoins. Et puis, parlez-nous, tout simplement, effectivement, on vous remercie toujours, vous les médias, parce que c'est important de pouvoir faire parler de l'association. Et effectivement, en dernier lieu, les dons. Nous fonctionnons quasiment uniquement grâce à la générosité des donateurs. Et c'est effectivement, comme vous le disiez, une difficulté pour toutes les associations aujourd'hui. Et puis, c'est toujours une remise en question chaque année. Donc, effectivement, c'est un bon moyen de soutenir aussi l'association, c'est de pouvoir faire un don. Et ces dons, effectivement, on les consacre uniquement à l'objet social pour faire des heureux.
Oui, et puis justement, une chose qu'on n'a pas précisé, c'est que lorsque l'on devient famille d'accueil, l'association accompagne financièrement, prend en charge les frais du show.
Oui, tout à fait. Donc en fait, tous les frais vétérinaires, les frais d'alimentation, l'équipement du show sont pris en charge par l'association. On demande juste à la famille est-ce qu'elle puisse s'équiper d'un petit endroit douillet, un joli plaid ou un petit panier pour que le chien puisse se reposer. Quelques friandises, mais en dehors de ça, c'est l'association qui assume tous les frais inhérents au chien tout au long de sa vie auprès de la famille d'accueil.
Bien, en tout cas, merci Marie d'avoir été avec nous aujourd'hui. On espère que cet appel trouvera un écho auprès de nos auditeurs. Je rappelle le numéro sur lequel on peut vous joindre. Donc, c'est le 02 33 29 51 26. Merci beaucoup Marie.
Un grand merci à vous également et à bientôt.
À bientôt. L'AJT continue dans quelques instants avec le micro-trottoir de la semaine, mais avant, si vous êtes un peu à fleur de peau, si vous avez envie d'un peu de douceur et de mélancolie, eh bien vous allez aimer Alyosha Schneider avant elle.
Rien à espérer de moi. Passe ton chemin, t'arrête pas. N'en ai rien à espérer de moi. Tout me glisse entre les doigts. Le bonheur, je suis arrivé à sa porte. J'ai pas osé, non, j'ai pas osé. Le bonheur, je suis arrivé à sa porte. J'ai pas osé. Non, j'ai jamais eu peur de personne. Avant elle, avant elle. J'ai jamais eu peur de personne. Avant elle, avant elle. Jamais eu si peur qu'on m'abandonne. Avant elle, avant elle. Non, j'ai jamais eu peur de personne. Avant elle, avant elle. T'embête pas, y'a rien à espérer de moi. Tout me glisse entre les doigts. Le bonheur, je suis arrivé à sa porte. J'ai pas osé, non, j'ai pas osé. Le bonheur, je suis arrivé à sa porte. J'ai pas osé. Non, j'ai jamais eu peur de personne. Avant elle, avant elle. Non, j'ai jamais eu peur de personne. Avant elle, avant elle. Jamais eu si peur qu'on m'abandonne. Avant elle, avant elle. Non, j'ai jamais eu peur de personne. Avant elle, avant elle. Est-ce qu'il y a une chose plus triste au monde? Quand ceux qu'on aime nous aiment plus. Est-ce qu'il y a une chose plus triste au monde? Quand ceux qu'on aime nous aiment plus.
Na, 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 na. C'est une séquence que j'essaye toujours en phase avec l'actualité. Je vous disais, j'ai voulu un peu de légèreté aujourd'hui. Donc c'est le moment du micro-trottoir de la semaine.
Même dans la rue, on peut plus avoir la paix maintenant.
Vous êtes du quartier ?
Silence. Chaque bruit compte dans le silence. Un oiseau qui s'éveille, une branche qui craque, un chevreuil qui s'enfuit.
Je me demande, et si on se confie mieux à quelqu'un qu'on ne connaît pas bien ?
Alors, les fêtes s'approchent à grands pas et à Laval, chacun prépare Noël à sa manière. Dans quel état d'esprit sont les Lavallois ? Les cadeaux sont-ils prêts ? Et surtout, en cette époque de l'année où l'on... tente de freiner la surconsommation, je vous ai posé cette question. Quelle idée de cadeau offrir qui ne soit pas un objet ?
On les a déjà tout achetés. Pour nos enfants, on a du mal à choisir pour nos enfants.
Je dirais plus à un moment... En famille ou entre amis, ou même profiter de l'hiver avec ses joies, par exemple, ça peut être de la patinoire, ou profiter du fait qu'il fasse froid pour faire des activités dont on ne pense pas spécialement à d'autres moments.
Et bah, peut-être une place de théâtre,
une soirée avec tous mes amis, voilà, un petit moment.
Un câlin, une attention.
Un moment de partage, alors une balade à pied pour discuter, pour partager, pour écouter, pour... Ça serait ça, moi, mon moment à moi. Un moment que j'offrirais pour être là, simplement là.
Puis je leur ai aussi demandé s'il y avait un cadeau en particulier qui leur donnait du fil à retordre cette année. Voici ce qu'ils m'ont répondu.
C'est toujours les cadeaux pour les hommes. C'est toujours un peu compliqué. On ne sait pas comment leur faire plaisir. Voilà.
Pas pour les enfants, mais pour les adultes, quoi.
Oui, pour mes parents, je pense. C'est compliqué de trouver un truc qui leur plaise ou avoir les bijoux, les choses comme ça. Il n'y a pas grand-chose.
Pour ma petite fille, l'une de mes petites filles, je suis embêtée. Tout est en rupture de stock. Je suis très embêtée parce que faire des cadeaux, pour moi, c'est un cadeau. Je me fais plaisir en offrant les cadeaux que les personnes veulent avoir. Et là, je suis mal barrée.
Et alors, je leur ai demandé quel était le cadeau le plus original ou le plus touchant qu'ils aient jamais reçu. Écoutez.
Ça va être l'ambiance, la tradition aussi.
Me retrouver avec toute ma famille, au complet. Les cadeaux.
L'ambiance. J'adore l'ambiance. D'ailleurs, après, j'ai le spleen. Parce qu'il y a toute cette ambiance de Noël, la recherche des cadeaux. On se prend la tête pour le repas, on se prend la tête pour faire plaisir à tout le monde.
Ce qui nous touche le plus, c'est la famille, d'être en famille. Hein. Réunis, hein, avec les enfants, les petits-enfants, et voilà.
Bah, nous, c'était avoir le calendrier avec toute la famille dessus.
Non, c'est plutôt un moment partagé, plutôt en famille, ou voilà, retrouver ceux qu'on ne voit pas souvent, peut-être. C'est l'ambiance de Noël, ouais, j'aime beaucoup ça, je sais pas, ça met de la gaieté, hein, ouais, et puis ça fait penser aux siens, surtout, ouais. J'aime faire les cadeaux, plus que les recevoir, en fait.
Un scooter, une place de concert, taïk. Je pense que c'est le meilleur cadeau que j'ai eu.
Ce serait un dessin fait avec le cœur, voilà, qui m'est offert comme si on m'avait offert le plus beau des diamants de la Terre.
Et alors, voilà, j'ai demandé également, dans cette période de fête de fin d'année, qu'est-ce qui la rend si spéciale à vos yeux ?
Ça va être l'ambiance, la tradition aussi.
Me retrouver avec toute ma famille, au complet, les cadeaux.
L'ambiance. J'adore l'ambiance. D'ailleurs, après, j'ai le spleen. Parce qu'il y a toute cette ambiance de Noël, la recherche des cadeaux, on se prend la tête pour le repas, on se prend la tête pour faire plaisir à tout le monde, on est très dans le truc. Je suis très film de Noël, moi, vous savez, le machin qui a la guimauve, qui est plein de sucre, qui fait bien pleurer. Voilà, ça me fait kiffer. Voilà, c'est Noël, c'est beau. À Noël, il devrait rien se passer de grave. Enfin, pour moi, c'est pas le cas, hein. Je suis un petit peu bisounours, là.
Et alors pour terminer, je leur ai demandé s'il y avait un souhait, peut-être même un peu secret, un espoir qu'ils nourrissent pour l'année 2025.
Que toute la famille soit réunie, enfants, petits-enfants, que tout le monde soit réuni.
Ouais, la santé, meilleure santé, ouais, pour tout le monde. Ouais. Santé et travail.
Moi, je veux que mon mari m'offre le voyage, qu'il ne m'oublie pas l'année prochaine, il m'a oublié cette année.
Allez, Maurice.
Et alors, il devait l'offrir l'année dernière, il ne l'a pas fait ?
Non, il ne l'a pas fait parce qu'on n'avait pas de passeport.
Une amélioration des qualités de vie en général, des espaces urbains des fois qui sont souvent dégradés, donc, et plus de stabilité aussi, plus politique au niveau de la France. À mon âge, je ne suis pas trop impacté, mais je pense que c'est quelque chose qui va devenir important au fur et à mesure du temps, 16 ans.
Bah, que ma fille revienne en France, aller au Canada. Pas qu'elle vienne revivre en France, mais au moins la voir, avec son bébé.
Prendre faire ma maman, parce que bah, c'est compliqué avec les cours et tout, et c'est tout. Je pense que c'est déjà bien.
Moi, franchement, ce que j'aimerais, c'est que l'ambiance politique partout hein, se planifie, et puis que ça sera jamais à 100% top, mais que tout ce qui se passe en ce moment se planifie un petit peu et qu'on trouve des solutions pour les guerres déjà. C'est un peu bateau ce que je dis. Hein. On puisse un petit peu respirer, souffler pour tous les pays, hein, à leur niveau si vous voulez. Je pense que ça n'arrivera pas, mais si ça pouvait arriver, ça serait vraiment top.
Juché sur un promontoire gazonné et fleuri, le pigeonnier des Darvalières ne passe pas inaperçu. Surplombant la place Vincent Auriol à Nantes, ce vestige du XVIIe siècle a rouvert ses portes au public le 21 mai dernier dans le cadre du deuxième appel à projet « Lieu à réinventer ». Julie Judet de Prune est allée à la rencontre de Teddy Ranger, membre de l'association Le Pigeon Voyageur, à l'initiative du projet. À son micro, il nous raconte comment le pigeonnier a pu être réinventé comme un lieu de rencontre, d'animation, mais aussi de jardinage pour et par les habitantes et habitants du quartier. Écoutez.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Juché sur un promontoire gazonné et fleuri, le pigeonnier des Dervalières ne passe pas inaperçu. Ce vestige du XVIIe siècle a réouvert ses portes au public le 21 mai dernier dans le cadre du deuxième appel à projet « Lieu à réinventer ». Ranger Teddy, membre de l'association Le Pigeon Voyageur à l'initiative du projet, nous raconte comment le pigeonnier a pu être réinventé comme un lieu de rencontre, d'animation mais aussi de jardinage pour et par les habitantes et habitants du quartier.
Bienvenue au Pigeonnier. On est au cœur du quartier des Dervalières à Nantes, sur un lieu historique, assez monument historique, qu'on appelle le Pigeonnier, donc le Pigeonnier des Dervalières. Moi, la première fois que je l'ai vu, personnellement, je pensais que c'était un moulin qui avait perdu ses ailes. C'est un monument donc cylindrique, à peu près de 8 mètres de diamètre et d'une dizaine de mètres de haut, qui ressemble à un moulin, donc sans ses ailes. Et au-dessus, on peut apercevoir des nichoirs où les pigeons se posent. Le nom du lieu à réinventer, c'est le Pigeonnier des Dervalières. Et donc l'association s'appelle Le Pigeon Voyageur. L'idée toute simple était que justement on puisse, sans jeu de mots, être une sorte de messager par rapport à la parole des habitants et pour les habitants. Un messager aussi à travers le temps et l'histoire. Et que un messager, il est de passage par définition. Il n'est pas là que pour s'ancrer, même si c'est toujours agréable de faire de belles rencontres. Et donc c'est aussi de rendre le flambeau à des gens qui prendront le relais et qui prendront certainement la suite des actions à un moment ou à un autre. Parce que tout projet est fait, pas par rapport à des personnes, mais justement par rapport à un collectif. Donc qu'on le rende après les clés du pigeonnier, on ne veut pas les garder pour nous.
Pensée locale, un enjeu de société.
À l'instar donc du château, on peut retrouver cette atmosphère, cette odeur, cette ambiance des douves du château. Il y a un endroit un peu sombre, humide, mais qui se prête au mystère et au secret, et où tout de suite on a envie de lever les yeux vers cette coupole en lanternon et tous ces trous, alors ces fameux trous qu'on appelle des boulins. Voilà. Chaque trou, chaque boulin permettait d'accueillir un couple de pigeons. Et ça donne aussi envie de mettre des jeux de lumière, de mettre des gros tapis et d'escalader, pourquoi pas. En tout cas, il faut rendre ce lieu qui a été emmuré pendant plus de 40 ans, il faut le rendre aux habitants. Et c'était ça, le cœur du projet, c'était de l'ouvrir, de le rendre accessible et de pouvoir témoigner un peu de l'histoire, tout en ayant un axe autour du réemploi, des cultures urbaines, un axe autour des solidarités, qui est un projet, on va dire, qui se passe à l'extérieur. C'est se dire que c'est un lieu qui a plein de possibilités, l'histoire, mais ceci rassembler des générations, un lieu qui rassemble, donc, et qui a failli être détruit. Maintenant, au-delà de l'historique, c'est comment on fait un lien avec le quartier. Bah, l'idée, c'est justement de s'ouvrir le plus possible par les initiatives d'habitants et les associations qui sont présentes dans ce quartier depuis bien longtemps, qui sont très actives, et quand elles nous sollicitent, de répondre présent le plus possible et d'ouvrir ce lieu dès qu'on peut, ouvrir aux habitants. La magie de l'intérieur, est, voilà, une fois qu'on y est, on peut, ça se sent. On a envie de fermer la porte et de se laisser aller à écouter des histoires, à se relaxer, à faire de la magie, hein, tout ce qu'on a pu un peu proposer et plein d'autres choses qu'on n'a pas encore imaginées, mais qui seront certainement possibles. Maintenant, quand on arrivera à monter un collectif d'habitants qui peut l'utiliser sur des thématiques, en fait, l'idée, c'est que les porteurs de projet, à un moment, puissent soit être proposants pour faire évoluer un peu le projet, soit se mettre en retrait et laissent les clés aux habitants. Et dans tous les cas, tant qu'il y a du monde, nous, on est contents, en fait.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de la Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Le pigeonnier des Dervalières réinventé, un reportage de Julie Judet pour Prune.
On arrive au moment de la chronique de Maître Mignard, la chronique juridique de l'AJT du local. Et alors Priscilla, c'est étonnant parce que même malade, vous avez l'air en forme.
Oui, bonjour Margot, oui, c'est le retour de la voix de merde. Merci de mettre en avant mes formes voluptueuses. Bonjour, oui, coucou mes petites boules de gui qui pendouillent du plafond. Oui, aujourd'hui je me sens une âme de malade et de poétesse. Je suis comme qui dirait pénétrée par l'esprit de Noël, et ce n'est pas pour me déplaire. Ceci est ma troisième et dernière chronique de Noël. Oh non! Mais ne vous inquiétez pas, ces trucs-là, c'est comme François Bayrou et la cystite. Ça finit toujours par revenir. Baby, come back. Won't you please come back? Si c'était, si t'étais pas ado dans les années 90, tu peux pas comprendre. Si t'étais ado dans les années 40, certainement que tu ne peux plus entendre.
Mais alors, de quel sujet passionnant allez-vous nous parler, chaleureuse et scintillante Priscilla?
Oh, comme vous y allez, Margot, on va penser que c'est moi qui écris vos répliques. Alors que pas du tout. Comme tout bon avocat, je ne sais pas écrire. Aujourd'hui, je vous parle des traditions de Noël et de leur potentielle illégalité. Et oui, en cette période d'avant, les êtres humains adoptent des coutumes particulières qui peuvent être source de nuisances.
Alors, ça tombe bien ce sujet parce que je me demandais si faire cuire du vin chaud avec moult épices pouvait être considéré comme une nuisance.
Oh, question très précise, Margot. Pour vous répondre, je citerai d'abord mon tonton Gilbert. Faire cuire du vin? Mais t'es folle, tu vas enlever tout le goût. Par tout le goût, comprenez tout l'alcool. Mais outre le fait que le vin chaud, ça ressemble à du pipi de chat qui a ses menstruations, bah oui, c'est pas pour rien qu'on y rajoute des épices, c'est bien pour camoufler l'ammoniaque. Eh bien, le vin chaud, il faut dire que ça peut aussi vite schlinguer. On en vient au trouble anormal du voisinage, ainsi défini par l'article 1253 du Code civil, celui qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Ainsi, ton voisin peut être condamné à t'indemniser parce qu'il aura balancé ses effluves de cannelle et de gingembre dans la cage d'escalier. Mmh. En parlant d'effluves, vous avez remarqué qu'il y a genre 81 pubs par heure pour des parfums en décembre? Mmh. Est-ce que les gens cocottent plus à l'approche de Noël? Au risque de paraître cynique, mon coco, mademoiselle, cher mâle, même si j'adore les fêtes et que la vie est belle en petite robe noire, Noël ne serait-il pas le black opium du peuple? Je pose ça là.
J'ai une autre question, Priscilla.
Ça fait beaucoup de questions pour une seule chronique, Margot. Vous êtes sûre que vous allez bien? Il y a comme de la fumée au-dessus de votre tête.
Tout va très bien, merci.
Ok, je prends acte de votre réponse et je vais faire abstraction de votre majeur levé aussi haut que le déficit de l'État français et je répondrai avec plaisir à votre question.
Parfait, dites-moi, sacrifier une dinde pour Noël, est-ce un acte de barbarie?
Eh bien, cette tradition de manger pour Noël ou Thanksgiving, une volaille qu'on aura préalablement fourrée de marrons et de farce. Non, maman, ne m'envoie pas 50 messages après la diffusion de cette chronique. Pour une fois, je ne parle pas de toi ici. Même si peu éthique que soit cette tradition, elle est légalement admise en France. Car une volaille est considérée comme un animal habituellement destiné à la consommation humaine. Néanmoins, depuis la loi du 16 février 2015, l'animal est qualifié d'être vivant et doué de sensibiliser à l'article 515-14 du Code civil. Effectivement, tout animal étant un être sensible, il doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Pour résumer, pour satisfaire au bien-être d'une dinde, faut la bouffer. Bon, faudrait peut-être leur demander leur avis aux dindes, non ? On appelle ma mère pour le standard ? Son numéro, c'est 07-666-666. Allez. Bref. Autre question, Margot, je vois que vous êtes bien lancée aujourd'hui.
Et oui, avec la coutume de mettre une bougie devant sa fenêtre pour la Sainte-Lucie, j'ai brûlé mes rideaux de Johnny Hallyday. C'est pas dangereux, cette tradition ?
Vous avez, comme qui dirait, allumé le feu. Désolée pour cette vanne pourrie. Pour ma pénitence, je réciterai 5 « Oh Marie, si tu savais ». Je vous rejoins, Margot. Cette coutume de la bougie sur le rebord de fenêtre est dangereuse et peut être constitutive d'une mise en danger de la vie d'autrui, punie par les articles 223-1 et suivants du Code pénal. Mais cette pratique noëlesque est tolérée si c'est pour avoir sous la main une arme pour cramer la chorale qui viendra chanter chez toi des cantiques de Noël. Là, c'est même fortement conseillé. Pour conclure, ne soyez pas dupes. Les traditions de fin d'année, c'est bien, c'est souvent autorisé. Mais par exemple, fêter la lumière pour Lucie, voyons. Est-ce que vous connaissez une seule Lucie qui soit une lumière, hein ? Moi, je préfère fêter l'obscurité avec Lucifer. Je vous aurais prévenu. Sur ce, joyeux Noël, Margot. Joyeux Noël, chers auditeuristes. Et joyeux Noël à Joe Biden, sûrement le dernier.
Merci beaucoup. Joyeux Noël à vous, Maître Minière. Et puis j'ai une pensée pour Lucie qui était avec nous l'année dernière sur cette émission. Merci beaucoup, Maître Minière.
Yeah!
C'était Christmas Time de The Darkness, l'agité du local. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à Marie Wattio d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à Priscilla, bien évidemment. Votre émission quotidienne, c'est fini pour aujourd'hui, mais d'autres émissions arrivent sur nos ondes. Et alors, ce jeudi est très musical. À 19h, vous écouterez Gold Soul Theory, une émission concoctée par deux soul heavers, Yoko et Moot. Ensemble, ils ont pour modeste ambition de vous faire redécouvrir standards et autres pépites de la soul music. Ensuite, à 21h, eh bien, c'est All Blues, et donc c'est sans surprise une émission sur le blues qui nous est proposée par Bruno. Ça commence donc à 21h sur les ondes de l'autre radio. Moi, je vous dis à demain pour le grand format de l'AJT du local. Ça sera la dernière émission de 2024. La semaine prochaine, l'AJT fête Noël. Et donc, nous serons en compagnie de Jérôme Loget, artiste, scénographe et plasticien, un créateur de l'ombre qui donne vie à l'imaginaire des grands festivals de l'Ouest avec ses décors. D'ici là, laissez vos pensées vagabonder, offrez-vous une parenthèse de douceur et trouvez la beauté dans l'imprévisible. Et puis, s'il vous plaît, faites-le bien.
Bon, ben, Mimi, on dirait que c'est fini. Oh, ben, c'était bien, hein.